Place maintenant au Journal d'Haïti et des Amériques. Anne Verdaguer, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, on va revenir sur cette mobilisation en Haïti contre la corruption hier, 10 jours après la publication d'un rapport de la Cour des comptes de plus de 600 pages sur l'utilisation du fonds Petro-Caribé dans lequel l'ancienne entreprise du président haïtien Jovenel Moïse est épinglée. On reviendra également avec notre invité sur les annonces du président mexicain pour remettre à flot l'entreprise mexicaine Pemex chargée de l'exploitation du pétrole empêtrée dans une dette abyssale. Et puis au Brésil, Arim Nipol nous parlera de ces révélations d'un site d'investigation qui publie les conversations entre un ancien juge et plusieurs procureurs concernant notamment l'emprisonnement de l'ex-président Lula.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
En Haïti, plusieurs milliers de personnes ont donc manifesté hier à Port-au-Prince et dans d'autres villes du pays pour réclamer la démission du président Jovenel Moïse, accusé par la Cour des comptes de détournement de fonds via l'une des entreprises qu'il dirigeait avant sa prise de fonction. C'est au final toute la gestion frauduleuse des 4 dernières administrations qui est épinglée à travers ce scandale Petro-Caribé du nom du programme d'aide vénézuélienne. Cela représente près d'1,5 milliard d'euros mal dépensés ou sinon détournés. Dans la capitale, la marche s'est achevée avec des heurts entre policiers et manifestants. Au moins un jeune homme a été tué par balle en marge de ces incidents violents. Le reportage d'Amélie Baron à Port-au-Prince.
Au point de départ de la manifestation, au cœur de la foule, Jerry Michel appelle un changement total du système politique.
On marche pour le départ de Jovenel Moïse et on veut une transition de rupture. Ça veut dire qu'on veut une transition avec des gens honnêtes, compétentes, qui vont diriger le pays pour le peuple et par le peuple, de combattre l'injustice sociale, l'insécurité, la cherté de la vie, etc.
Le cortège a rassemblé des personnes de divers milieux, des membres d'organisations de la société civile, des étudiants et des membres de partis politiques. Une revendication a été partagée par tous et Peterson Oxis l'a résumé en quelques mots sur sa pancarte.
Le programme que j'ai écrit aujourd'hui sur ma pancarte, c'est l'argent et la tôle. Parce que Jovenel va nous remettre l'argent et ensuite il va entrer directement au pénitencier national.
Le défilé s'était déroulé dans le calme, sans incident notable, jusqu'à son arrivée aux abords de la place du Champ de Mars. Là, des affrontements violents ont opposé des petits groupes de jeunes manifestants aux forces de l'ordre. 2 bâtiments ont été incendiés à proximité du siège départemental de la police, alors que plusieurs rafales de tirs à balles réelles ont résonné dans le centre-ville. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Voilà, et pour revenir sur ces manifestations hier en Haïti, vous pouvez suivre ce soir sur RFI, 14h10, heure d'Haïti, le rendez-vous de la rédaction. Ce sera avec Stéphanie Schuller. Et des manifestations en Haïti, on en parle aussi dans la revue de presse. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Et on commence par les quotidiens haïtiens.
Oui, la rue réclame le départ du président Jovenel Moïse, lâché par l'église catholique et le secteur privé haïtien, titre le Nouvelliste. Le journal de Port-au-Prince précise que des dizaines de milliers de manifestants ont gagné les rues de la capitale et de plusieurs villes de province, notamment Cap-Haïtien, Gonaïves, Saint-Marc, Miragouane, Caye, Jérémy et d'autres. L'objectif principal de la mobilisation, poursuit le Nouvelliste, c'est de parvenir à la démission de Jovenel Moïse. Les manifestations ont été convoquées par des pétro-challengers et soutenues par des partis politiques et d'autres organisations de la société civile, des organisations, des structures organisées qui estiment que le président Moïse, accusé de détournement de fonds, n'est plus apte à conduire les destinées du pays, écrit donc le Nouvelliste.
Les Haïtiens riment qui se sont fortement mobilisés, notamment à Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays.
Oui, c'est un reportage à lire dans le National ce matin. Selon le journal, plusieurs milliers sont descendus effectivement dans les rues pour réclamer entre autres le départ de Jovenel Moïse. Une manifestation qui s'est déroulée sans heurts, même si des barricades enflammées avec des pneus, des détritus et des carcasses de véhicules ont été érigées tout au long du parcours.
Et à Port-au-Prince, en revanche, un homme a été tué lors de la manifestation hier. Je vous en parlais tout à l'heure. Plusieurs personnes ont été blessés. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux suscite la réaction des autorités à Rimes.
Oui, d'après le Nouvelliste, la vidéo montre un jeune homme étendu au sol sur lequel des policiers anti-émeutes ont jeté des pierres lors d'une intervention non loin de la résidence résidence du président Jovenel Moïse. La vidéo a fait réagir le directeur général de la police nationale qui a promis une enquête affirmant que, je cite, de telles pratiques ne font pas honneur à une institution garante de la démocratie et de l'état de droit dont la mission est de protéger et servir. Cet incident est également rapporté par le Miami Herald qui consacre un long article à la mobilisation contre le gouvernement. Une mobilisation qui pourrait s'inscrire dans la durée, écrit le journal de Floride. Le Miami Herald rappelle que le président Jovenel Moïse ne s'est pas exprimé publiquement depuis la publication du rapport de la Cour des comptes.
Un rapport qui dénonce la gestion calamiteuse et la corruption autour des fonds pétro-caribéens, ce programme de développement parrainé par le Venezuela.
Oui, qui font monter aussi au créneau plusieurs secteurs du pays, notamment l'Église catholique. Des évêques avaient déclaré ce week-end de vouloir voir à tous les échelons du pouvoir et de la fonction publique des femmes et des hommes nouveaux par leur mentalité, leur conscience professionnelle et leurs compétences. C'est une prise de position sans précédent contre la corruption qui gangrène le pays, écrit le Miami Herald. Selon le quotidien, la situation du pays suscite de fortes inquiétudes dans le milieu diplomatique à Port-au-Prince. Cette situation est sérieuse et justifie un dialogue national de grande envergure, explique par exemple l'ambassadeur français José Gomez, cité par le Miami Herald.
Direction le Brésil, à présent à Rim, où l'enquête anticorruption Lava Jato fait à nouveau la une. Elle aurait poursuivi des objectifs politiques.
Oui, c'est ce qu'affirme en tout cas le site d'investigation The Intercept. L'opération Lava Jato aurait été menée, entre autres, pour empêcher le retour au pouvoir de l'ancien président Lula, condamné, vous savez, à plus de 8 ans de prison pour corruption. The Intercept publie des messages privés échangés entre le ministre de la Justice, Sergio Moro, à l'époque en charge de l'enquête, et certains procureurs. Des messages révèlent des conseils donnés par Sergio Moro aux procureurs. Ils montrent aussi que ces derniers avaient des doutes concernant les preuves contre Lula. Conclusion du site d'investigation. Alors qu'ils ont assuré longtemps qu'ils étaient apolitiques et motivés par la seule lutte anticorruption, les procureurs de Lava Jato ont en fait comploté entre eux sur les moyens d'empêcher le retour au pouvoir de Lula et de son parti des travailleurs. Ce scoop fait la une de la presse brésilienne. Selon Correio Brasiliense, ces informations, si elles sont avérées, posent effectivement la question de l'impartialité des procureurs et aussi celle du maintien à son poste du ministre de la Justice, Sergio Moro.
Merci à Rim Lippold pour cette revue de presse des Amériques. On part aux États-Unis à présent, où Donald Trump s'en est pris à son terrain de jeu favori hier, Twitter, qu'il accuse de violer la liberté d'expression. Le président américain demande au réseau social d'autoriser le retour d'utilisateurs conservateurs bannis de la plateforme pour non-respect des règles d'utilisation. La plupart sont issus des rangs de l'extrême droite et des milieux conspirationnistes américains. Éric de Salve.
Selon Donald Trump, Twitter a fait une gigantesque erreur en bannissant de sa plateforme des personnalités conservatrices. Au nom de la liberté d'expression, le président américain demande donc dans un tweet ce dimanche le retour de ces individus expulsés de son réseau social favori qu'il accuse régulièrement d'être acquis à la gauche démocrate. Tous ont pourtant été bannis pour appel à la haine, à la violence ou au racisme, à la fois de Twitter mais aussi des autres plateformes comme Facebook et YouTube. Parmi eux figure notamment le bouillonnant Alex Jones, célèbre conspirationniste de l'extrême droite américaine expulsé de Twitter après avoir appelé ses 600 000 abonnés à prendre les armes contre les médias. Avant cet appel, le fondateur du site Infowars avait régulièrement accusé les victimes de la tuerie de Parkland en Floride d'être des acteurs payés par des lobbies anti-armes aux États-Unis. Il avait aussi accusé Hillary Clinton d'être impliquée dans un réseau pédophile œuvrant dans des pizzerias et a bien sûr diffusé de nombreuses théories complotistes sur le 11 septembre. Autre figure conservatrice expulsée de Twitter, l'un des invités habituels de son site, par ailleurs ancien conseiller et proche de Donald Trump, inculpé dans l'enquête russe, son fidèle Roger Stone. Twitter devrait laisser ses voix conservatrices revenir. Cela s'appelle la liberté d'expression, tweet Donald Trump. Éric de Salve, San Francisco, RFI.
Direction le Mexique à présent. Depuis qu'il a pris les rênes du pays, le président Andrés Manuel López Obrador n'a de cesse de répéter qu'il souhaite à tout prix remettre à flot l'un des fleurons de l'industrie mexicaine, Pemex, l'entreprise publique chargée de l'exploitation du pétrole. Le Mexique est le 11e producteur de pétrole au monde, mais Pemex est dans une situation financière catastrophique avec une dette abyssale estimée à 107 milliards de dollars. Le président mexicain a donc annoncé la semaine dernière toute une série de mesures. Isabelle Rousseau, professeure au Colegio de Mexico, Mexico, spécialiste des questions liées au pétrole, estime que la tâche s'annonce difficile étant donné les politiques mises en place depuis des années. Elle est au micro de Romain Lemaresquier.
C'est pas une situation nouvelle. En réalité, le diagnostic précis, c'est le rôle qu'on a fait jouer à Pemex depuis les années 80. Et c'est-à-dire que Pemex, c'est d'une certaine façon le mécanisme qui permet de réajuster la situation macroéconomique du pays. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que Pemex a alimenté le fisc mexicain à hauteur en gros de 35 à 40%, donc des recettes fiscales du ministère des Finances pendant des années. Là, c'est un petit peu baissé parce que la production de Pemex a baissé, parce que le prix du pétrole a baissé, parce que les exportations ont baissé. Ça veut dire que Pemex a eu, à cause de ce rôle qu'on lui a fait jouer, un régime fiscal confiscatoire depuis 30-40 ans. C'est-à-dire que l'entreprise payait plus d'impôts que les recettes qu'elle pouvait enregistrer. Donc elle est toujours en déficit constant. Donc ça, c'est une vraie première raison. Deuxième raison, c'est l'énorme contre-choc pétrolier qu'on a vécu en 2015-2016 avec quand même une chute du cours du baril de 76,5%. Donc évidemment, toutes les compagnies pétrolières ont été affectées, particulièrement évidemment les compagnies quand même plus faibles. Troisièmement, la réforme énergétique qui a été mise en place en 2013-2014 a été aussi accompagnée d'une réorganisation de Pemex. Alors les réorganisations, en général, sont suivies de moments de flou. C'est toujours des moments très difficiles à gérer et qui est arrivé évidemment au moment du contre-choc pétrolier. Donc ça, je crois que ça a eu aussi une influence. Et enfin, je dirais aussi une corruption qui a toujours miné Pemex, mais qui semblerait avoir pesé davantage durant le sexennat précédent. Donc ça, je crois que ce sont des éléments qui peuvent en grande partie expliquer la mauvaise situation de financière au Pemex. Et d'autre part également, un syndicat qui a la main mise sur l'entreprise et un excédent énorme de personnel.
Alors aujourd'hui, le gouvernement d'Andrés Manuel López Obrador veut mettre les bouchées doubles pour essayer d'inverser la tendance. Quelles sont les mesures prises par ce gouvernement pour pouvoir justement redresser la barre de Pemex?
Alors, le diagnostic qu'ils sont en train de faire, c'est qu'il y a trois problèmes centraux. Il y a un vol démesuré de combustible, une croissance exagérée de la dette de Pemex et une charge fiscale excessive. Donc, ils essaient d'attaquer ces trois points. La charge fiscale excessive, ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est un nouveau régime fiscal de Pemex, et ça, on peut le célébrer. Quant à la croissance exagérée de la dette de Pemex, le but, c'est que ça ne s'accentue pas. Et d'autre part, c'est essayer de refinancer, recapitaliser l'entreprise. Et le troisième point, c'est le vol démesuré des combustibles, ce qu'on appelle le watchicall. Ils ont frappé un grand coup en décembre-janvier contre les voleurs.
Alors, c'est un véritable fléau, ce problème du watchicall au Mexique.
Oui, c'est un fléau, bien sûr. Alors, ça représente quand même 2 milliards de dollars de pertes chaque année. Hein. C'est quand même assez énorme. Ceci dit, les mesures qu'ils ont prises n'auront pas forcément, je dirais, à terme un effet. D'ailleurs, aujourd'hui, le gouvernement annonce qu'il y a une réduction de 97% de vols de combustible par rapport à 2018, mais la mesure de stopper des ductos, les pipelines, et d'acheter des camions-citernes, de livrer le combustible par camion-citerne, est à mon avis une mesure qui est relativement dangereuse, enfin coûteuse premièrement parce que il a fallu acheter un nombre extrêmement important de camions-citernes aux États-Unis. D'autre part, certains camions-citernes ont déjà été volés, en particulier dans l'État de Guanajuato. Et enfin, le coût de l'essence est 11 fois plus élevé lorsqu'il est livré par camions-citernes que lorsqu'il est livré par pipeline. Donc, évidemment, on gagne peut-être de l'argent d'un côté, on perd de l'autre.
Est-ce que ces mesures prises les unes après les autres vont permettre à terme à Pemex de redevenir rentable de manière durable?
Pemex devrait se concentrer sur ce qu'ils peuvent faire. Voilà. Or, la politique actuelle du gouvernement, c'est de remettre Pemex au centre du jeu, de redevenir la grande entreprise qu'elle a été un jour. Or, ça, je crois que c'est évidemment extrêmement dangereux financièrement parce que Pemex n'a pas les moyens financiers de le faire et je crois qu'elle devrait se concentrer sur les acquisitions qu'elle a eues au niveau des champs pétroliers lors des premières enchères où, disons, Pemex a choisi les champs où l'entreprise voulait travailler, tant en exploration qu'en production. Je pense qu'elle doit se concentrer sur ce qu'elle peut faire. Et le reste, elle doit accepter de travailler, de partager avec des compagnies privées qui mettraient une partie du capital. Ça, je crois que ce serait une mesure tout à fait intéressante et intelligente. Avoir également une politique de contenu national qui soit intéressante pour le pays. Et enfin, également, une politique de transfert de technologie où Pemex puisse véritablement apprendre à travailler dans le deep water, c'est-à-dire dans les eaux profondes, là où Pemex n'a pas d'expérience. Ce sont des mesures qui devraient permettre de remettre à flot d'une certaine façon, en plus des mesures financières, etc., qui sont prises. Mais ces mesures financières en soi, si Pemex doit tout faire, à mon avis, c'est impossible.
Isabelle Rousseau, professeure au Collegio de Mexico, spécialiste des questions liées au pétrole. Elle était au micro de Romain Lemaresquier. Et c'est l'heure de l'actualité des Outre-mer avec le journal La Première Caraïbe présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une aujourd'hui, les algues sargasses sont de retour sur le sud de l'archipel guadeloupéen.
Et oui, hélas, selon les prévisions des spécialistes, ceux qui observent en permanence l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes, eh bien, d'importantes plaques, comme on dit, d'algues sargasses vont arriver sur la côte est de la Guadeloupe et sud, et donc aussi sur les côtes de la Désirade, des Saintes et de Marie-Galante. Olivier Lancien.
Les courants transportent directement ces algues brunes sur notre archipel. Ces sargasses, situées au sud-sud-est, remontent du Brésil vers la Caraïbe dans un courant marin nord-ouest. Nous sommes en plein sur la trajectoire. L'heure n'est plus aux tergiversations de « qui doit ramasser ?». Le conseil départemental est sur le qui-vive. Ses services techniques sont en alerte, notamment pour les ports de pêche et les ports départementaux. L'objectif est d'enlever ces algues brunes rapidement, sous 48 heures. Les populations doivent aussi se prémunir. Une question cruciale, surtout en ce jour férié où traditionnellement, les plages sont prises d'assaut. Philippe Gustin, le préfet de région, a mis fin à un début de polémique vendredi. Dans un communiqué ferme, le représentant de l'État rappelle que ce sont les collectivités locales, les communes et les EPCI précisément, qui ont la charge sur leur propre budget du ramassage et de l'entreposage. L'objectif, intervenir au plus vite avant la décomposition afin d'éviter des émanations toxiques.
Des médecins cubains devraient bientôt pouvoir venir exercer en Martinique et notamment au CHU, Centre Hospitalier Universitaire. Un amendement adopté vendredi dernier au Sénat autorise désormais l'installation de ces praticiens, à condition évidemment que l'amendement en question se retrouve dans le texte final de la future loi sur l'organisation du système de santé. Aux yeux de la sénatrice martiniquaise Catherine Conconne, à l'origine de l'amendement, c'est en tout cas déjà une victoire. Elle est au micro de Cyril.
Il y a des spécialités qui sont extrêmement à la peine. Pouvoir avoir une consultation d'ophtalmologie à l'hôpital, c'est compliqué. Il manque de radiologues, il manque de médecins en gastro-entérologie. Il y a énormément de spécialités avec des pathologies qui sont propres à la Caraïbe. Exemple, tout ce qui découle du diabète, les difficultés qu'on a en néphrologie, le rein, les amputations des membres et tout, auxquelles certains médecins sont amenés par manque de moyens souvent, eh bien Cuba nous a montré qu'il savait faire en ce domaine. Et s'il y avait quelqu'un à qui je devais rendre hommage aujourd'hui, c'est à Pierre Samo, l'ancien maire du Lamantin, qui a initié il y a fort longtemps cette coopération médicale avec Cuba.
Bonne fin de journée, Anne. À demain.
Merci Benoît Ferrand et à demain. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain 14h10, heure de Paris, midi 10, en temps universel. Restez avec nous dans un instant. Le retour de l'actualité sur Radio France Internationale.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.